Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Gisèle Cash. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre journal d'information sur Radio Kapi. Voici les principaux titres de l'actualité. Journée mondiale contre la pauvreté, l'alerte de la Banque mondiale. Sans emploi, des qualités, l'inclusion sociale reste hors portée pour la RDC. Nord Kivu, c'est vendredi, les combats entre l'AFC M23 et les Wazalendo du CMC dans les territoires de Rutshuru provoquent de nouveaux déplacements de populations déjà vulnérables. Spoliation des terres agricoles en fin de journal. L'ingénieur Damas Mamba, secrétaire général au ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, revient sur les conséquences de la perte de l'espace cultivable et les pistes pour les protéger. Ouverture du journal lancé 17 octobre. Le monde entier célèbre la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Une date symbolique qui donne lieu à des prises de parole fortes, notamment celle d'Albert Zefak, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, le Burundi, l'Angola, le Sao Tomé et Principe. Dans un éditorial parvenu à Radio Kapi, il met en lumière un enjeu crucial pour la République démocratique du Congo, l'inclusion sociale passe impérativement par la création d'emplois de qualité. Selon lui, les données sont sans appel. L'Afrique subsaharienne donne impérativement place d'emploi au cœur de ses priorités pour faire face à une croissance démographique rapide et soutenue. Concernant la RDC, Albert Zefak déplore une pauvreté persistante et structurelle. Il pointe du doigt une croissance économique trop dépendante du secteur minier, peu diversifiée et insuffisamment incluse pour transformer du les conditions de vie des Congolais. Le point complet avec Grâce Hamzati.
À en croire le directeur pays de la Banque mondiale, d'ici 2050, la population en âge de travailler augmentera plus rapidement que dans toute autre région en développement, avec plus de 620 millions de personnes supplémentaires sur le marché du travail. La RDC occupe une place centrale dans cette dynamique, juste derrière le Nigeria avec près de 72 millions de personnes concernées. Mais comment créer davantage d'emplois de qualité en RDC? Albert Zefak rappelle que la dernière édition de l'Africa Pulse, publication semestrielle de la Banque mondiale, propose plusieurs pistes pour relever ces défis. Réduire les coûts liés à l'environnement des affaires, améliorer les infrastructures de base et renforcer la connectivité grâce à l'électricité, aux routes, aux chemins de fer et au numérique, et améliorer la gouvernance. La RDC peut aller encore plus loin et adopter une approche plus audacieuse pour avoir un impact significatif à l'échelle. À travers des projets transformateurs comme le programme de développement Inga 3, le corridor de Lobito et le corridor Pacte reliant Mbujimayi à l'est de la RDC, le pays pourra créer des emplois de qualité et stimuler la croissance du secteur privé. Parallèlement à cette approche ambitieuse, la Banque mondiale dit poursuivre ses efforts pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des réformes structurelles visant à améliorer le climat des affaires.
Autre sujet à suivre dans ce journal, réuni récemment à Washington à l'occasion de leur 114e assemblée annuelle. Le ministre des Finances et le gouverneur des banques centrales des pays membres du G24 ont lancé un appel fort, préserver l'indépendance des banques centrales. Selon les experts financiers, cette autonomie est cruciale pour garantir la crédibilité et l'efficacité des politiques monétaires. Cette recommandation constitue la première d'un ensemble de 4 résolution adoptée lors de cette rencontre. La République démocratique du Congo a pris part à ces échanges représentés par le gouverneur de sa banque centrale, André Wameso. Le point avec Josué Kefebe.
Outre la question des banques centrales, les membres du G24 ont insisté sur 3 axes majeurs, notamment de mieux organiser et prioriser les dépenses de l'État pour renforcer leur solidité. Les G24 prônent aussi des réformes pour assurer la viabilité des finances publiques, une meilleure gestion de la dette et plus de transparence sur les emprunts contractés par les pays. En outre, les pays appellent à redonner l'élan et la coopération internationale pour établir des échanges commerciaux stables et aider les nations vulnérables, notamment celles touchées par les conflits, les catastrophes naturelles ou un lourd endettement. Ces recommandations font suite à un constat relatif aux défis mondiaux. Les membres du G24 ont pointé du doigt les drames humanitaires causés par les guerres et la violence, en rappelant les liens étroits entre la paix et le développement. Ils ont également souligné le rôle crucial des politiques nationales dans les pays en développement pour contrôler l'inflation. Enfin, la réunion a mis en lumière les points de l'endettement qui étouffent les projets de développement à long terme.
Et puis dans ce journal également, à Kinshasa, les sinistrés des inondations d'avril dernier réclament justice. Installés depuis deux jours sur l'avenue des Écuries, l'une des voies d'accès à la présidence, ces sinistrés passent la nuit sur place pour exiger leur indemnisation. Après avoir été relogés sur trois sites, le stade de Martyrs, le stade Tata Raphaël et Maloukou, plusieurs d'entre eux dénoncent des montants dérisoires reçus, tandis que d'autres affirment n'avoir perçu aucun soutien financier depuis leur départ des camps. Selon leur témoignage, une aide de 10 000 dollars américains par personne aurait été promise par le chef de l'État lors de sa visite sur le site. Pourtant, certains n'ont reçu que 200, 300 ou 500 dollars, des sommes jugées trop loin des engagements annoncés. Nous écoutons à présent Raphaël Nongontamba, chef d'équipe du site du stade des Martyrs, au micro de l'Ikinzao.
Ici, ils sont venus pour réclamation. Le premier jour, quand le chef de l'État est parti au stade Tata Raphaël, il a prononcé le discours que tout le monde était content. Il a dit, votre retour d'ici, vous allez sortir ici en souriant. Donc il va nous en occuper bien pour qu'on ne revienne plus là où on était. Et maintenant, il a envoyé les gens qui ne marchaient pas avec la même idéologie que le chef de l'État. Ils sont venus, le montant que le chef de l'État a préparé, le gars est venu, il nous a donné les miettes. On a ramassé un fichier dont on a écrit que chaque personne doit recevoir 500 billets de 20 dollars. Quand tu fais les 20 billets de 20 dollars, tu payes par 500, ça te donne 10 000 dollars. Non, le gars ne devait pas nous donner les 300 dollars, 200 dollars, c'est-à-dire que là, il nous a volé. Et quand on a vu comme ça, avec 200 dollars, tu es un parent de 4 enfants, tout ça là, tu as une femme, et tes choses sont tous parties dans l'eau, les congélateurs, les frigos, et on donnait 200 dollars, tu feras quoi avec ça là? C'était insuffisant. Depuis hier, il était là et le chef de l'État a dit que vous partez, je vais m'en occuper de vous aujourd'hui, ce matin. C'est pourquoi nous attendons.
Autre effet marquant de ce jour, au Nord Kivu, ce vendredi, les combats restent intenses dans le groupement de Bukombo, situé en chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Les affrontements opposent les rebelles de l'AFC M23 aux combattants Wazalendo, membres du collectif du mouvement pour le changement CMC. Selon plusieurs sources locales, cette nouvelle escalade provoque des déplacements supplémentaires des populations déjà fragilisées par l'insécurité persistante dans la région. Jean Gando nous en dit plus.
Depuis 5 heures du matin, des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues dans le village de Bumbasha, à une dizaine de kilomètres à l'est de Mouesso. Plusieurs sources attribuent cet affrontement aux opérations de traque de l'AFC M23 contre les unités du collectif des mouvements pour les changements CMC de Dominique Ndarouche que la rébellion veut expulser de la zone. Ce tir ébranle tous les villages de cette partie de la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru jusqu'à Mouesso, territoire voisin de Masisi. Plusieurs sources locales affirment que les quelques habitants qui vivaient encore dans ce village vident les lieux prenant la direction de Kanyaongé, Mwongozi et Katiru dans le Bwito. D'autres sont arrivés cet avant-midi à Mouesso dans le Bachali, territoire de Masisi. Elle déplore ces combats qui se poursuivent ce vendredi après d'autres incursions attribuées jeudi aux présumés éléments de l'AFC M23 dans la localité de Karambi, Chaemba, dans le même groupement de Bukombo. Là, une femme de Bouambira a été trouvée morte, deux biens ont été pillés. Ces sources déplorent cette escalade qui persiste dans la région en dépit de la signature mardi dernier à Doha de l'accord sur les mécanismes de surveillance du cessez-le-feu permanent entre le gouvernement congolais et l'AFC M23.
En Ituri, mardi 14 octobre, dans les territoires des Djougou, à environ 20 km de Bounia, la force de la MONUSCO est intervenue pour empêcher une attaque du groupe armé Codeco visant des sites de déplacés dans le village Ndachulu, Mazé et Largou. Alertés à temps, les casquets bleus ont réagi avec rapidité et fermeté, repoussant les assaillants avant qu'ils ne puissent atteindre les civils. Grâce à cette opération, les zones ciblées ont été sécurisées, les populations déplacées protégées. Le major Ahmed Bouya, officier de l'information publique de la force de la MONUSCO, revient sur cette intervention au micro de Marcel Papimoukeba.
Tôt le matin, des tirs nourris ont réveillé les habitants de Ndachulu. Les miliciens tentaient d'atteindre le site de déplacés de Roho, situé à une centaine de kilomètres de Bounia. Alertés, les casques bleus ont rapidement déployé leurs troupes et tiré de queue de semence pour repousser les assaillants. Une patrouille est intervenue à Mazé avant de se diriger vers Largo, stoppant l'avancée des miliciens. Cette action coordonnée a permis de sauver des milliers de vies et d'éviter le pire. Les casques bleus ont également protégé et escorté des véhicules humanitaires prêts au piège jusqu'à leur base près de l'hôpital de Drodro. À 11h, le calme était revenu. Les patrouilles se poursuivent pour prévenir toute nouvelle attaque et assurer la sécurité des civils. Cette intervention témoigne de l'engagement constant de la MONUSCO à protéger les populations et à renforcer la stabilité dans les zones touchées par les violences.
Restons à Ituri, à Bunia, chef-lieu de la province. Environ 60 militaires des FARDC ont achevé le 10 octobre dernier une formation spécialisée dispensée par la force de la MONUSCO. Durant 11 jours, ces soldats ont été formés à divers domaines techniques, télécommunications, utilisation du GPS, pilotage de drones, soins paramédicaux, informatique ainsi que maniement d'armes lourdes. La cérémonie de clôture marqué par la présence du gouverneur de l'Ituri et du commandant du secteur nord de la MONUSCO a mis en lumière la collaboration étroite entre les forces onusiennes et les FARDC. Pour les organisateurs, cette initiative s'inscrit dans la volonté constante de la MONUSCO de renforcer les capacités opérationnelles des forces congolaises et de contribuer à la stabilité durable de la région. La colère gronde dans le village de Wanyerukula à une soixantaine de kilomètres à l'est de Kisangani, dans la province de la Tchopo. Ce matin, un habitant a perdu la vie après avoir été atteint par une balle tirée par un militaire. Selon un membre de la société civile présent sur les lieux, le militaire aurait ouvert le feu pour disperser une foule venue soutenir un villageois en pleine altercation avec un soldat. Ces derniers l'accusaient d'avoir abattu un gibier en pleine période de fermeture de la chasse. Cette tragédie a provoqué une vive indignation au sein de la population locale qui réclame justice et des explications sur l'usage de la force armée dans un contexte civil. Le gouvernement provincial de Kinshasa fait peau neuve. Selon un arrêté signé par le gouverneur, une nouvelle équipe a été constituée dans le but de renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale. Entièrement composée d'hommes, cette formation conserve certains visages connus, tandis que d'autres ministres changent des portefeuilles ou voient leurs responsabilités élargies. À noter également l'arrivée d'un nouveau membre au sein de l'exécutif. Alors, à quoi ressemble cette nouvelle équipe? Les détails avec Babel.
Parmi ceux qui gardent leur poste, c'est notamment Alain Chilungo aux infrastructures, travaux publics, affaires foncières et urbanisme et habitat, car aussi de Léon Moulumba qui continue de gérer l'environnement, la propriété publique, l'embellissement de la ville et l'aménagement. Fiston Lukwebo reste au commerce, industrie, énergie, partenariat public-privé, entrepreneuriat, PME et artisanat. Jackson Mpunga est maintenu aux mines et hydrocarbures. Il gère aussi l'agriculture, pêche, élevage et développement rural. Jésus Noël Cheke est maintenu au plan budget emploi et tourisme avec quelques à jour. Il s'occupera aussi désormais de la fonction publique ainsi que de transport et mobilité urbaine. Patricia Gongo reste à la santé, hygiène, prévention et affaires sociales, actions humanitaires et personnes vulnérables. Il sera aussi maintenant la communication. Il est donc le nouveau porte-parole du gouvernement provincial. D'autres changent de domaine. C'est le cas de Jeannot Kanola-Rose qui quitte l'éducation pour la sécurité publique, l'administration des territoires, justice et affaires coutumières. Il est remplacé à l'éducation, formation professionnelle, citoyenneté, genre et famille par Thierry Chitenga Kabuya qui était à l'intérieur jusque-là. Bob Amisoka, qui gérait la mobilité urbaine, s'occupera à présent de la jeunesse, sport et loisirs, ainsi que de la culture et des arts. Un nouveau membre rejoint le gouvernement, il s'agit de Magloire Kabimba, nommé ministre des Finances, Économie et du Numérique. Il remplace ainsi Madame Yvette Temboko Linfuka. Il y a donc plus de femmes au sein de l'exécutif provincial de Kinshasa.
À noter également au sein du cabinet du gouverneur, Eli Louba prend désormais les fonctions de directeur de cabinet. Son prédécesseur Israël Moutala a quant à lui été nommé secrétaire exécutif du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Santé, c'est jeudi à Limité. L'association Djema a organisé une matinée d'information dédiée à la santé et plus précisément à la lutte contre le cancer du sein. Cette maladie responsable de plusieurs milliers de décès chaque année dans le monde reste encore méconnu du grand public. L'objectif de cette rencontre, informer, sensibiliser et encourager le dépistage volontaire. Plusieurs jeunes ont été formés aux méthodes de prévention et aux mécanismes de lutte contre cette pathologie qui touche principalement les femmes. Laetitia Mwabila Mbangu-Mbangu, coordinatrice de Djema, lance un appel fort à la population au micro de Babel Mpongo Masimango.
Notre premier point d'abord, c'est apporter l'information au public et aussi les accompagner pour les dépistages. Nous travaillons dans les écoles, dans les universités, dans les marchés, partout où on peut trouver les femmes et les jeunes. Au-delà d'apporter l'information, il faut aussi accompagner le public à aller se faire dépister. C'est très important. Souvent, nous rencontrons des gens, des femmes qui nous disent « Nous ne pouvons pas aller les faire parce que il se peut que je sois malade. » C'est une très bonne occasion. Si tu es malade, ok, on te prend en charge. Voilà pourquoi j'invite les mamans, les jeunes filles surtout. Ça ne concerne pas seulement les mamans, ça concerne aussi les jeunes filles. Il faut se palper le sein. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas un tabou. Dès que vous avez quelque chose de pas normal, nous avons des centres de santé, des hôpitaux qui nous ont saisis, notamment la clinique des anges, il y a aussi le centre Nganda. C'est vrai qu'il y a un faible taux de cancer de sein chez les hommes, mais ça existe. C'est à peu près 2 ou 3%. Au-delà de tout, faites-vous des pistes.
Actualité internationale.
Ce vendredi, le Kenya a rendu un dernier hommage à Raila Odinga, figure emblématique de l'opposition décédée mercredi en Inde à l'âge de 80 ans de suite d'un arrêt cardiaque. Plus de 40 000 personnes se sont rassemblées au stade de Nyayo de Nairobi pour une grande prière nationale après une veillée funèbre agitée la veille au stade Kasarani, surnommé Baba par ses partisans. Odinga a été salué comme un homme d'État visionnaire. Le président William Ruto a déclaré qu'il avait donné plus à son pays que n'importe quel Kenyan ne le fera jamais. L'évêque anglican David Kodia, lui, a dénoncé les dérives actuelles de la classe politique, louant la force des convictions et des mots de Raila Odinga. La cérémonie a été marquée par une bousculade en fin de journée, lorsque des membres de la foule ont tenté de s'approcher du cercueil. Une douzaine de blessés ont été pris en charge par la Croix-Rouge, certains souffrant des fractures et des troubles respiratoires. Jeudi, lors de la veillée, des tirs de la police dans une foule débordée ont fait 3 morts selon l'ONG Vocal Africa.
L'invité.
L'invité du jour focus sur la spoliation des terres agricoles. Cette problématique prend une ampleur inquiétante dans plusieurs grandes villes de la République démocratique du Congo. Selon les experts du ministère de l'Agriculture, près d'une décennie des sites initialement réservés à l'exploitation agricole sont illégalement transformés en zones d'habitation. À Kinshasa, le cas des Dingi Dingi, dont la commune de Njili illustre cette réalité. Des cultivateurs y sont menacés, expulsés et leurs sont détruits parfois par des hommes en uniforme. Quels sont les impacts de cette situation sur la sécurité alimentaire et le développement rural? Quelle stratégie adopter pour protéger et récupérer ces terres de plus en plus convoitées? Pour en parler, notre invité est l'ingénieur Damas Mamba Mamba, secrétaire général au ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Il est au micro de Jody Kachama.
Ingénieur Damas Mamba Mamba, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Quelles sont les raisons à la base de la spoliation des terres agricoles dans l'interland de Kinshasa et sur l'ensemble du territoire national?
C'est seulement la propension des immeubles. Les gens veulent construire et ils sont en train de faire des dégâts sur les terres agricoles.
Quel état des lieux vous faites de ce fléau?
Non, mais ce fléau, l'agriculture a besoin de terres et l'agriculture avait ses terres. L'interland de Kinshasa, c'était l'interland prévu pour les activités champêtres et l'interland de Kinshasa, c'est l'interland qui nourrit la ville de Kinshasa. Pour ne citer que quelques exemples, vous avez le centre Mokali, vous avez Dingi Dingi, donc au-delà de
Ndjibrasi,
vous avez Tchwenge, vous avez Mikonga, vous avez Pépinière de Bandal, vous avez l'entrée Matete, vous avez Lembaimbu, vous avez le centre de Kimwenza, vous avez Ngombe Lutendele. Tous ces centres, aujourd'hui, sont remplacés par des maisons d'habitation, obligeant les agriculteurs à aller chercher les terres au-delà de ça.
Et qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence sur la première
conséquence, c'est que l'insécurité alimentaire, puisque quand vous diminuez les champs de travail de producteurs agricoles et que n'ont plus de terres, la première conséquence, c'est l'homme qui vit à Kinshasa, qui ne sait plus pour se procurer des denrées de première nécessité qui viennent de l'agriculture. L'autre conséquence, c'est que quand vous venez mettre les maisons, vous avez les conséquences des inondations qui sont venues, puisque l'eau qui sert à l'agriculture va servir à inonder les maisons. Donc ça, c'est des conséquences directes. Également, la malnutrition qui s'accroît. Et sur le producteur, les revenus s'amenuisent, puisqu'ils n'ont plus où faire les travaux champêtres.
Quelles sont les solutions envisagées pour arrêter ces fléaux?
C'est la loi. Nous avons la loi portant principes fondamentaux qui régit l'utilisation des terres et également les cadastres agricoles. Cette loi, elle est partie en modification, elle traîne. Sur des plans réglementaires, il faut que les cadastres agricoles, les terres agricoles soient sécurisées.
Donc aussi, c'est la garantie. Une problématique, c'est l'implication des ayants droit coutumiers qui collaborent avec certains agents de l'État, du ministère des cadastres, certains magistrats. Il y a des sites, par exemple, à Dingiding, où on retrouve des policiers et même des militaires. Le site est militarisé, les cultivateurs sont brutalisés, les cultures sont saccagées. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela?
Cette question doit être réglée par la loi et par d'autres actes administratifs qui vont avec. Puisque la sécurité des terres agricoles ne dépend que de la loi. Puisque tous ceux qui viennent, ils pensent qu'il y a ignorance des textes réglementaires. Nous avons aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai convoqué une réunion avec les experts de l'aménagement du territoire. Vous savez qu'il y a la loi sur l'aménagement du territoire qui est sortie. Nos collègues des affaires foncières et nous-mêmes, nous sommes en réflexion sur l'usage des terres et également sur les cadastres agricoles. Nous avons un atelier d'harmonisation de vues pour régler certains articles liés à la loi portant principes fondamentaux. Parce que le capital terre doit être sécurisé. Il ne peut être sécurisé que par la loi ou par les textes réglementaires.
Et quand vous faites allusion au cadastre agricole, qu'est-ce que cela veut dire?
Le cadastre agricole permet de inventorier les terres qui ont pour vocation l'agriculture, de les sécuriser, de les localiser, d'éviter qu'il y ait un combat avec d'autres secteurs de la vie nationale, tels les mines, tels les aménagements des immeubles. Les cadastres doivent sécuriser également les terres qui sont abandonnées. Nous avons des terres qui ont vocation d'irrigation. Il faut qu'on les connaisse. Et comment obtenir la terre au Congo? L'inventaire récent montre que les terres au Congo sont dans 60% héréditaires. Donc ces terres-là, il faut, même si la loi dit que la terre sous-sol appartient à l'État, il faut régler ces aspects-là. Il faut les régler à travers un cadastre agricole. Vous avez les cadastres forestiers, vous avez les cadastres miniers, mais il faudra que les cadastres agricoles nous donnent finalement la cartographie réelle des terres. On vous parle de 80 millions de terres arables. Les 80 millions de terres arables sont où? Quand vous circulez le long de la route de Bandundu ailleurs, vous trouvez des fermes. Quelqu'un s'est accaparé 400 hectares, 2000 hectares et autant.
Et autant, depuis plusieurs années,
il fait rien. Dans le cadre du cadastre agricole, qu'on règle ça. Et dans la loi portant principes fondamentaux qu'on règle. Si quelqu'un ne fait rien, puisqu'il a 400 hectares, au bout de 10 ans, il commence le lotissement. Alors qu'il avait pris ça pour l'usage agricole. Donc il faudrait que tout ça soit réglementé.
Bien, ingénieur Damas Mamba, secrétaire général au ministère de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, je vous remercie.
Moi également, je vous remercie.
C'était l'invité du jour, l'ingénieur Damas Mamba. Il s'exprimait sur les conséquences de la spoliation des terres agricoles en RDC et les pistes envisagées pour protéger ces espaces vitaux. Ce journal vous a été présenté par Gisèle Cage. La mise en onde a été assurée par Jean-Claude Onciala, sous la coordination de Jean Gando, supervision de Lievin Mbwinga. Merci de votre attention. L'actualité continue sur Radio Okapi et nos plateformes numériques. À très bientôt sur la même fréquence.